Oui, mais j'aime beaucoup Stéphane Lissner et tout ce qu'il a fait à Paris, à Aix. Alors, je ne serai pas aussi souvent à Milan, mais évidemment, je me réjouis beaucoup de sa nomination.
Voilà.
Le reste, c'est le Mexique. Hein.
On change de registre aujourd'hui, Alexandre. Fin de l'élection mexicaine.
Eh bien, l'élection mexicaine a été de plus en plus disputée. Et le challenger, le président Calderón, est passé devant le grand favori, López Obrador. Pour des amateurs de beaux matchs, c'était un beau match avec un suspense qui a été maintenu jusqu'au bout. On peut même comparer à des pénalties d'après match le recomptage des bulletins demandé par López Obrador, qui pas plus que Berlusconi n'est décidément un bon perdant. Mais de toute façon, quand bien même le recomptage aurait abouti à une nouvelle élection, car c'était la menace qui planait, il est clair que Calderón était déjà le vainqueur, ayant remonté près de 20 points dans les sondages, le handicap qui le séparait de son adversaire de gauche. Alors, il y a peut-être trois remarques importantes à faire sur le résultat de cette élection mexicaine. La première, c'est que, contrairement à l'image finalement assez favorable du Mexique, qui fut une dictature républicaine, populaire, à l'origine de gauche, ce sont les secondes élections totalement libres et totalement sincères que connaît le Mexique. La démocratie, au sens de l'alternance et d'élections non truquées, est en effet quelque chose de complètement nouveau pour le peuple mexicain qui n'y a jamais eu accès, même dans les années 70 et 80 où le mouvement s'élargissait dans le reste de l'Amérique latine. Bien sûr, les libertés publiques au Mexique étaient nombreuses, la liberté d'expression était presque totale, les partis d'opposition, comme le Parti communiste, ou le PAN précisément, le Parti démocrate chrétien, avaient pignon sur rue, mais en même temps, ils n'avaient pas le droit de gagner les élections qui étaient réservées au Parti révolutionnaire institutionnel. C'est un système qui plaît actuellement aux partisans de Poutine, qui y ont fait allusion, à ces partis dominants. Mais enfin, laissons là la Russie. Donc, ces élections ont été sincères. Ces élections ont été très disputées, ces élections ont été triangulaires, puisque il reste des partisans du PRI, du parti institutionnel, qui bloquent le système, mais qui ont stagné comme prévu à moins de 20%. Donc nous avons vraiment eu un duel, et un duel qui n'était pas, comme le précédent, pratiquement acquis, dans la mesure où ni la gauche, ni le parti révolutionnaire institutionnel n'étaient suffisamment puissants, donc Fox a été élu dans l'attente générale, ici le suspense. Donc le Mexique est en train d'arriver à la maturité, pas de violence, pas de brutalité, pas d'intimidation, pas de bourrage d'urne. Deuxièmement, cette élection sincère est aussi une élection fondamentale, car on ne peut absolument pas dire que les candidats en présence aient masqué les enjeux. D'un côté, Felipe Calderón, le gouverneur d'un état du nord du pays, très lié au Texas, un homme de centre-gauche en réalité, qui n'est pas clérical, bien qu'il appartienne à un parti dont les bases sont catholiques, et qui a défendu tout simplement l'économie de marché, l'association avec les États-Unis, qui sont, il faut bien le dire, au moins en termes macroéconomiques, de grands succès. De l'autre, le maire de Mexico, un grand agitateur social, venu, lui, du PRI, mais de la gauche du PRI, et qui a gouverné avec des militants communistes, des militants chrétiens de gauche, c'est exactement la formule Lula, mais avec un certain pragmatisme, une ville de Mexico qu'il a appréciée comme maire, et un homme qui se situait très exactement sur la médiane entre Lula d'un côté, le pragmatisme économique et la social-démocratie, Chavez de l'autre, le populisme. Était-il bon, était-il méchant? Il a essayé de prendre ses distances de Chavez en voyant combien cette image pouvait lui nuire, et cela seul est intéressant. Il n'a pas non plus convaincu de son pragmatisme et son style un peu autoritaire, avec des tendances mégalomanes, a achevé de faire peur à tous ceux qui voulaient l'alternance. Donc, il y a une défaite claire et nette d'un populisme latino-américain hostile aux États-Unis au profit d'une association plus forte du Mexique et de l'Amérique. C'est l'autre face de l'équation que nous avons vue aux États-Unis, où les Américains d'origine latine veulent chanter l'hymne national en espagnol, veulent se voir traités en pleine égalité en Californie, au Texas. Mais si telle est la situation, en effet, une majorité de Mexicains ne veut pas qu'un rideau de fer, cette fois-ci idéologique, s'établisse entre le pays et le grand voisin du Nord. Et enfin, je serai bref là-dessus parce que le temps manque, mais aussi parce que c'est simple, c'est le coup d'arrêt maintenant définitif à la vague chaviste. Au fond, Chavez, malgré les immenses ressources pétrolières qu'il a mises au service de différentes campagnes électorales latino-américaines, n'a fait élire que son ami, le trafiquant de coca, Evo Morales en Bolivie, lequel commence à se sentir un peu isolé. Au Pérou, à l'arraché de la même manière, c'est le social-démocrate Alan Garcia de l'APRA qui s'est fait réélire contre le chaviste, un colonel tortionnaire. Et désormais, après la nationalisation brutale des intérêts brésiliens en Bolivie, la dynamique bolivarienne est sérieusement enrayée. L'élection mexicaine lui porte le coup de grâce. Il y aura encore quelques surprises et quelques attentes au Nicaragua, où les sandinistes ont essayé de revenir. On verra comment va se terminer une élection brésilienne où les deux candidats se réclament en fait de la social-démocratie, Lula, le sortant, et Alckmin, son challenger de Saint-Paul. Mais enfin, pour l'essentiel, cette année électorale commence à se terminer en Amérique latine avec un match très nettement en faveur du pragmatisme, de la liberté et de la social-démocratie. C'est franchement une très bonne nouvelle.
Merci Alexandre Adler. Et puis très rapidement, quelques rendez-vous que vous propose France Culture, notamment le festival qu'organise France Culture dans la belle ville de Nîmes. Nîmes Culture, ce soir vendredi 7 juillet à 20h30. Serge Resvani, La Nuit Transfigurée, version inédite tirée de Jusqu'à la Nuit, publiée chez Actes Sud Papier, avec Marie-Josée Nat et Marcel Bozonnet. L'entrée est au prix de 5 euros. Voilà un bel effort de démocratisation de la culture. Samedi 8 juillet, dimanche 9 juillet, le festival se poursuit. Vous avez tous les renseignements sur le site internet de France Culture. Et deux émissions, Tout arrive d'Arnaud Laporte et Les Travaux publics de Jean Lebrun, se concocteront en direct de